Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du vendredi 14 avril 2023. En direct de Washington, Eric Manlakidza, d'abord le sommaire. Le Burkina annonce la mobilisation générale en réponse aux attaques djihadistes. Retrait des soldats allemands du Mali prévu dans 9 à 12 mois, selon les ministres de la Défense et du Développement. Le parti d'opposition du Zimbabwe désigne Nelson Chamisa pour affronter Emmerson Mnangagwa lors de la prochaine élection présidentielle. Extradition de Thabo Bester, le meurtrier sud-africain qui avait simulé sa propre mort en prison. Le ministère américain de la Justice fait appel des restrictions imposées à une pilule abortive devant la Cour suprême. Réunion régionale en Arabie Saoudite pour discuter des relations avec la Syrie alors que la réconciliation entre Riyad et Téhéran redistribue les cartes au Moyen-Orient. À suivre également dans cette édition l'économie et les sports. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les autorités de transition du Burkina Faso ont décrété jeudi la mobilisation générale afin de fournir à l'État les ressources nécessaires pour faire face aux attaques djihadistes et qui continuent de causer de nombreuses pertes de vies humaines dans le pays. Cette mesure autorise potentiellement la réquisition de personnel de Ouagadougou, la correspondance signée Lamine Traoré.
À l'issue du Conseil des ministres hier, le gouvernement a décidé d'adopter un décret qui porte sur la mobilisation générale et la mise en garde. Face à la situation sécuritaire à laquelle fait face le Burkina Faso, le salut de la nation repose sur un sursaut national de l'ensemble des filles et des fils en vue de trouver une solution, a expliqué le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly. La mobilisation générale et la mise en garde visent à donner à l'État tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation sécuritaire, indique le communiqué de la présidence du Faso à l'issue du Conseil des ministres. Il s'agit surtout à travers ce décret de donner un cadre juridique, légal, à l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour faire face à la situation que vit le Burkina Faso, note le communiqué. Fin mars, le gouvernement avait décrété l'état d'urgence dans 8 régions sur les 13 que compte le pays. Une mesure prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, avait affirmé le gouvernement. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Les ministres allemands de la Défense et du Développement, lors de leur visite au Mali, ont annoncé que le retrait des soldats allemands prendrait 9 à 12 mois. Yacouba Ouedraogo.
Le ministre allemand à la Défense, Boris Pistorius, a rendu visite au contingent allemand de la mission de l'ONU à Gao, dans le Nord, dans la perspective d'un retrait annoncé d'ici mai 2024. Il est accompagné de la ministre du Développement, Svenja Schulze. C'est une opération logistique militaire qui nécessite les 9 à 12 prochains mois en fonction des circonstances, a déclaré Boris Pistorius. Selon l'ONU, parmi les 12 000 casques bleus, l'Allemagne compte le contingent le plus important, chargé entre autres de la sécurité de l'aéroport de Gao. Ces soldats font surtout des missions de reconnaissance, mais Boris Pistorius affirme que cet engagement n'est plus possible dans la pratique depuis quelques mois. La ministre allemande au développement a souligné que même si l'engagement militaire prend fin, l'aide civile allemande va se poursuivre, invoquant l'accès à l'eau ou à l'agriculture. Les deux ministres allemands qui ont débuté leur visite au Niger l'achèvent ce vendredi au Mali.
Au Zimbabwe, le parti d'opposition a confirmé hier que Nelson Chamisa, un avocat et pasteur âgé de 45 ans, sera le candidat officiel de l'opposition face au président sortant Emmerson Mnangagwa. Lors de la prochaine présidentielle, ce sera leur deuxième confrontation électorale après celle de 2018. Nani Tetalani.
Nelson Chamisa a été désigné comme candidat présidentiel par le comité indépendant, a déclaré Shepherd Ngandou, porte-parole du comité, lors d'une conférence de presse à Harare. La semaine dernière, M. Chamisa a accusé sur Twitter le gouvernement de militariser la loi et d'incarcérer injustement Job Sikala, un fervent législateur qui est détenu dans une prison de haute sécurité depuis le mois de juin. Il a été arrêté en même temps que la porte-parole du parti, Fadazi Maïré, qui a été reconnu coupable d'avoir publié des faussetés la semaine dernière. M. Chamisa a déclaré sur Twitter que la condamnation de M. Maïré était la preuve des attaques croissantes contre les forces démocratiques au Zimbabwe et qu'il fallait remédier à la situation. Lors de leur premier face-à-face en 2018, M. Mnangagwa a remporté de justesse l'élection avec 50,8% des voix contre M. Kamisa.
En Afrique du Sud, Thabo Bester, un meurtrier présumé qui avait réussi à simuler sa propre mort en prison et s'était échappé, a été extradé depuis la Tanzanie où il a été arrêté la semaine dernière. Cette affaire rocambolesque suscite l'embarras des autorités concernées. Claire Morin-Gibourg.
Nous pouvons confirmer que les fugitifs ont été ramenés de Tanzanie en Afrique du Sud, a déclaré le ministre de la Justice, Ronald Lamola, à propos de Thabo Bester et d'une femme avec laquelle il entretenait une relation. Ils ont été arrêtés ensemble vendredi dernier. Surnommé le violeur Facebook pour avoir attiré ses victimes via ce réseau social, Thabo Bester avait été condamné en 2012 à la prison à vie pour meurtre et viol. En mai 2022, un cadavre calciné a été trouvé dans sa cellule. Les autorités pénitentiaires pensaient alors que M. Bester s'était immolé par le feu derrière les barreaux. Mais il s'était en fait échappé. Fin mars, la police a révélé que le test ADN avait montré que la dépouille retrouvée dans sa cellule n'était pas la sienne. Après son arrestation en Tanzanie, le criminel a été réincarcéré dans la nuit de jeudi à vendredi dans une prison à sécurité maximale des environs de Johannesburg. Cette affaire insolite et macabre fait les choux gras de la presse sud-africaine depuis la semaine dernière. Mercredi, le porte-parole du président Cyril Ramaphosa a affirmé que le chef d'État était troublé par cette évasion qui laisse entendre une impressionnante série de défaillances et de compromissions.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Hier, le ministère américain de la Justice a déclaré qu'il va demander à la Cour suprême de revoir les restrictions imposées à une pilule abortive dans le cadre d'une bataille acharnée entre les partisans et les opposants de l'avortement. Roselyne Mounetzel.
Cette démarche de l'administration du président Joe Biden intervient quelques heures après qu'une cour d'appel a bloqué les tentatives d'interdiction de la mifepristone tout en limitant l'accès à la pilule utilisée pour plus de la moitié des avortements aux États-Unis. Nous allons demander une aide d'urgence à la Cour suprême afin de protéger l'accès des Américains à des soins reproductifs sûrs et efficaces, a déclaré le procureur général des États-Unis Merrick Garland. Mercredi, la cinquième cour d'appel des États-Unis a déclaré que la mifepristone devait rester disponible pour l'instant, mais en limitant l'accès aux 7 premières semaines de grossesse au lieu de 10. Cette nouvelle impasse survient près d'un an après que la Cour suprême, dominée par les conservateurs, a annulé l'arrêt Roe v. Wade et renvoyé la question de l'avortement au niveau de chaque État de la Fédération.
À partir de ce vendredi, 9 pays arabes se réuniront en Arabie Saoudite pour discuter de leurs relations avec la Syrie. Cette rencontre régionale se déroulera dans un contexte où la réconciliation entre Riyad et Téhéran, facilitée par Pékin, entraîne une redistribution des cartes au Moyen-Orient. Mohamed Oumfa.
Les pays du Conseil de coopération du Golfe ainsi que l'Égypte, l'Irak et la Jordanie se réunissent pour débattre d'un retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Cette réunion intervient au lendemain d'une visite surprise du ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Moqdad en Arabie Saoudite pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie. 12 ans après avoir été mis au banc des nations arabes, le président syrien Bachar al-Assad est en passe de regagner sa place parmi ses pairs. Le régime syrien a été exclu de la Ligue arabe en 2011, suite à la répression d'un soulèvement populaire qui a dégénéré en guerre civile. L'opposition avait même occupé le siège de la Syrie au sein de l'organisme lors d'un sommet en 2013. Le Royaume saoudien avait rompu ses relations en 2012 avec la Syrie, où il a soutenu des rebelles au début du conflit, comme d'autres pays du Golfe. Mais de plus en plus de pays arabes sont en faveur d'une réhabilitation du régime syrien alors qu'une nouvelle donne régionale se dessine, notamment avec le rapprochement entre l'Arabie et l'Iran, grand allié de Damas. Le séisme du 6 février qui a dévasté la Turquie et la Syrie a constitué une occasion pour le régime de Damas de reprendre langue avec plusieurs pays arabes qui lui ont envoyé une aide humanitaire.
Ici aux États-Unis, la police fédérale a arrêté jeudi un jeune homme de 21 ans, membre de la garde nationale aérienne américaine, dans le cadre de l'enquête sur la diffusion en ligne de documents classifiés.
Donald Trump a été entendu toute la journée jeudi à New York dans le cadre d'un futur procès au civil pour lequel il est accusé de fraude au sein de la Trump Organization une semaine après son inculpation historique dans une autre affaire. La mobilisation en France contre la réforme des retraites voulue par le président Emmanuel Macron a encore baissé jeudi pour la 12e journée nationale de manifestation à la veille du verdict du Conseil constitutionnel aujourd'hui sur ce texte très impopulaire. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Nathalie Barge.
Après deux années de baisse grâce à la reprise économique et l'inflation, les dettes publiques des États au niveau mondial devraient repartir à la hausse, a estimé le FMI. La Chine et les États-Unis sont particulièrement concernés. Sans changement dans leur politique budgétaire, les deux premières puissances économiques représenteront la majorité de la hausse d'ici à 2028. La hausse est concentrée sur la Chine, le Japon, la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Royaume-Uni. Toutefois, plus de 60% des pays connaîtront une baisse. Et selon un communiqué conjoint du FMI et de la Banque mondiale, les principaux créanciers et pays débiteurs se sont accordés sur des nouvelles mesures pour accélérer les processus de restructuration de la dette des pays en développement. Cet accord a été conclu à Washington en marge des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Il prévoit notamment d'améliorer la transparence et le partage d'informations pour mieux calculer les besoins d'allègement de dette. L'accord prévoit aussi de nouveaux financements aux pays dont la dette est en cours de restructuration. Les revenus du canal de Suez ont atteint 2,3 milliards de dollars au premier trimestre 2023, soit une hausse de 35% par rapport à la même période l'an dernier. Le nombre des navires qui ont traversé la voie maritime ces trois derniers mois a augmenté de 20% selon les chiffres de l'autorité du canal de Suez. Le 13 mars, un record de 107 navires transportant plus de 6 millions de tonnes de marchandises a été enregistré. Les autorités prévoient des recettes de 8,7 milliards de dollars cette année.
Nous passons maintenant à votre page sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Sénégalais Sadio Mané, suspendu un match par son club après son altercation avec son coéquipier Leroy Sané.
Oui, l'attaquant international sénégalais sera absent du groupe du Bayern Munich pour le match de Bundesliga contre Hoffenheim ce samedi. Après la défaite munichoise en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le ton est monté dans le vestiaire entre Sadio Mané et son équipier Leroy Sané, le meilleur joueur africain de l'année 2022, reprochant à l'international allemand la façon de s'adresser à lui sur une action en fin de match, selon la presse allemande. Les deux joueurs ont participé à l'entraînement du Bayern Munich à la Sabenerstraße ce jeudi matin. Thomas Tuchel prenant à part Sadio Mané quelques secondes. En plus de la suspension des matchs, Mané écope d'une amende, a expliqué le club allemand. Le Sénégalais de 31 ans sera à la disposition de son entraîneur Thomas Tuchel pour le quart de finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City, mercredi à l'Allianz Arena.
Et Thomas Ziyakus se retire du rachat de Manchester United.
L'homme d'affaires finlandais dit ne plus vouloir acheter le club anglais qu'il a qualifié de farce. Après le choix des propriétaires de Man U de lancer un troisième tour d'enchères, j'ai renoncé à participer à un troisième tour d'offres pour United. Ce processus vire à la farce avec la famille Glazer qui ne montre aucun respect pour le club, a dénoncé Thomas Ziyakus avec le milliardaire britannique Jim Ratcliffe et le président de la Qatar Islamic Bank, le cher Jassim Ben Ahmad Ben Jassim Ben Jaber Al Thani. Ziyakus était le troisième candidat déclaré à une prise de contrôle du club. Il n'avait rejoint le processus qu'au deuxième tour d'enchères fin mars, alors que les deux autres avaient déposé une première offre dès mi-février. Les Glazers, qui n'excluent pas de rester à la tête des Red Devils, espéraient 6,8 milliards d'euros, mais les offres semblent pour le moment n'atteindre que 5,7 milliards d'euros. Actuellement quatrième de Premier League, Manchester United a remporté la Coupe de la Ligue cette saison et est encore en lice en demi-finale de la Coupe d'Angleterre et en quart de finale de la Ligue Europa.
Philadelphie en demi-finale de la Ligue des Champions, CONCACAF, Yacouba.
Le club américain s'est qualifié pour les demi-finales après que deux décisions cruciales de la VAR lui ont permis d'obtenir un match nul de 2-2 contre le FC Atlas du Mexique, soit un score de 3-2 sur l'ensemble des deux matchs après avoir gagné 1-0 à l'aller. Les deux buts de Carranza ont été accordés alors qu'ils avaient été initialement signalés pour hors-jeu. Philadelphia Union affrontera Los Angeles dans un remake de la finale de la MLS Cup de l'année dernière, remportée par le Los Angeles FC au tir au but après un match nul de 3 buts partout.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manirakiza, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le gouvernement fédéral du Nigeria annonce à nouveau la fin prochaine des subventions accordées au carburant prévues pour la fin du mois de mai 2023, soit juste après l'investiture du nouveau président. Cette annonce suscite un débat animé et divise une fois de plus la population. La question de la subvention du carburant a été l'un des principaux enjeux de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 25 février dernier. À Abuja, le reportage de Gilbert Tambe.
Pour le gouvernement fédéral, le paiement d'une subvention énorme pèse lourdement sur le budget du Nigeria. Les autorités fédérales ont donc annoncé encore une fois la suppression de la subvention sur le carburant avant la fin du mandat du président Muhammadu Buhari le 29 mai 2023. Charles Abayomi, expert en pétrole et gaz.
It is, however, something a bitter pill.
C'est pourtant quelque chose comme une pilule amère que nous devons avaler si nous voulons faire des progrès avec l'économie. Nous pouvons nous attendre à des troubles civils. Je pense que le mandat du président élu est quelque peu faible, ce qui provoquera des contestations à cet égard.
Les données disponibles ont montré que l'année dernière, le Nigeria a dépensé environ 3,27 milliards de naira pour subventionner le carburant. L'activiste Faith Mwadiji soutient la suppression de la subvention sur le carburant.
C'est quelque chose que nous devons faire. Nous devons être courageux pour le faire, parce qu'il existe des alternatives. Le malheur est que le gouvernement ne discute pas de ces alternatives et qu'il n'a pas de plan concret et durable mis en place pour supprimer les subventions sur le carburant. Cela ne profite certainement pas à vous ni à moi. Lorsque vous raffinez un baril de pétrole brut, vous avez tellement de produits, notamment du kérosène, du diesel et tout cela. Le kérosène est celui que les pauvres utilisent, mais le kérosène n'est pas subventionné. Le kérosène coûte presque 1000 naira.
D'autres analystes estiment que le processus de subvention de l'industrie pétrolière est extrêmement inefficace et ne complète pas la recherche des revenus, n'a pas atténué les souffrances des personnes à faible revenu et n'a pas mis fin non plus à la pénurie persistante des carburants. Hawa Mustafa, spécialiste de développement à la centrale syndicale des travailleurs du Nigeria.
Pourquoi ne cherchons-nous pas d'autres options? Pourquoi ne recherchons-nous pas d'autres moyens là où il y a des fuites, afin de fermer ces fuites? Les fuites en termes d'impôts par les entreprises qui représentent des sommes colossales, de grosses sommes qui sont détournées chaque année. Des fuites en termes de corruption, des fuites même en termes de coûts élevés de la gouvernance.
Les Nigériens s'inquiètent des effets que la suppression des subventions sur le carburant pourrait avoir directement sur le prix de l'essence à la pompe. Le gouvernement affirme avoir obtenu auprès de la Banque mondiale 800 millions de dollars pour répondre à certains besoins pour la période post-subvention pétrolière. Le Nigeria subventionne son industrie pétrolière depuis 1980. Mais le chef de l'État de l'époque, Olusegun Obasanjo, avait estimé que les Nigériens moyens ne pourraient pas se permettre un gallon d'essence à la pompe. Il avait introduit un plan de subvention pour baisser le prix de l'essence. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Cameroun, des enrôlements pour la couverture santé universelle ont été lancés à Mandjou, dans la région de l'est du pays, située à plus de 260 km de Yaoundé. Cette initiative concerne 5 régions du pays où certains soins préventifs et promotionnels seront désormais disponibles pour les populations gratuitement ou à des coûts réduits. Le reportage de notre correspondant à Yaoundé, Emmanuel Juntap.
Le gouvernement a opté pour une mise en place progressive de la couverture santé universelle. La phase 1 va toucher plus de 6 millions de personnes. Malachi Manaouda, ministre de la Santé.
Nous devons attendre à une amélioration de l'offre de soins, à un accès beaucoup plus amélioré également aux soins, parce que vous savez très bien qu'il y a une frange de notre population qui avant n'accédait pas aux soins simplement parce qu'il y avait des barrières financières. Eh bien, avec ce que nous avons commencé et les populations cibles aujourd'hui, ils peuvent avoir accès à ces soins sans toutefois payer directement ces soins-là parce qu'il y a un mécanisme de tiers payant.
Cette première phase, qui concerne 5 des 10 régions, va coûter 90 milliards de francs CFA. Les partenaires techniques et financiers contribuent à hauteur de 48 milliards de francs CFA et l'État du Cameroun pour 42 milliards de francs CFA. Les précisions du ministre de la Santé, Malachi Manaouda.
Sachez très bien que nous allons rapidement et très vite en fonction des résultats que nous aurons sur le terrain. Nous voulons simplement demander à tous les acteurs, chacun en ce qui le concerne, de jouer son rôle. Je pense qu'on pourrait facilement aller rapidement dans le cadre de cette couverture santé universelle.
Les soins et services couverts englobent la vaccination, la nutrition et les interventions de santé communautaire. Les bénéficiaires sont les femmes enceintes dans cinq régions, la Damawa, l'extrême nord, le nord, le sud, l'est et leur nouveau-né, Marie-Louise Nao, une bénéficiaire résidente de Batouri, dans la région de l'est.
Il y aura beaucoup de changements. Les coûts sont devenus vraiment au niveau de tout le monde. La gratuité est là, les coûts sont faibles. Je crois que même dans nos communautés, dans nos fins fonds du village, il n'y aura plus trop de grincements dedans.
Les étrangers vivant au Cameroun, les enfants de moins de 5 ans souffrant du paludisme grave et simple, les personnes souffrant du VIH, l'oncocercose et de l'insuffisance rénale sont également concernées par la phase 1. Dr Fanuel Abimana, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Cameroun, parle d'un jour historique pour le Cameroun.
Vous voyez aujourd'hui que les gens se font d'ores et déjà enrôler à la couverture santé universelle. Aujourd'hui, le taux est proportionnel à 7500 francs CFA et les gens se font déjà enrôler dans le système.
Grâce à la couverture santé universelle, les soins annuels d'hémodialyse passent de 720 000 francs à 15 000 francs CFA pour tous les malades enrôlés. Mais une loi doit encore être promulguée pour fixer entre autres les montants de cotisation, le niveau de plafonnement de l'utilisation des services et désigner la structure qui va collecter les fonds. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Une équipe internationale de scientifiques a émis un avertissement concernant l'urgence de sauver le dauphin à bosse, une espèce qui serait menacée d'extinction selon des défenseurs de l'environnement. Bien que les filets de pêche mayens, qui constituent une menace pour les dauphins et d'autres espèces marines, aient été interdits au Sénégal en 1987, certains critiques soutiennent que le gouvernement n'a pas réussi à faire appliquer la loi. Le reportage d'Annika Hammerschrag depuis le delta du Sine Saloum au Sénégal. Récit signé Claire Morin-Gibourg.
Le delta du Sine Saloum au Sénégal s'étend sur des centaines de kilomètres. La zone protégée est un riche écosystème composé de mangroves, abritant et protégeant une importante biodiversité. C'est aussi l'un des refuges du dauphin à bosse de l'Atlantique. Avec seulement quelques 1500 spécimens restant dans le monde, c'est l'une des espèces de dauphins les plus rares. Les scientifiques estiment qu'environ 300 vivent dans le Sine Saloum. Mais ils sont confrontés à de nombreuses menaces, notamment la pollution, le développement côtier et, le plus problématique, leur enchevêtrement dans les filets de pêche. Lucie Kess-Diagne est la directrice du Fonds africain pour la conservation aquatique.
Les filets en monofilament sont extrêmement problématiques car ils sont très solides. Ainsi, lorsque les animaux se font prendre, ils ne peuvent pas se dégager. Et donc les dauphins, comme les lamantins, s'affolent quand ils se font prendre et ils s'empêtrent encore plus.
Les filets monofilaments sont transparents sous l'eau, ce qui facilite le piégeage des animaux sauvages tels que les requins, les tortues et les oiseaux marins. Parfois, les filets se perdent en mer où ils continuent de piéger la faune. Mais si ces filets ont été interdits en 1987 et la loi a été mise à jour deux fois depuis lors, ils peuvent encore être vus dans presque tous les ports de pêche et bateaux du pays. Diana Sek est assistante de recherche pour le Fonds africain pour la conservation aquatique.
Tout le monde sait que c'est illégal, mais c'est toujours utilisé car la loi n'est pas appliquée.
Des agents de l'État comme Samba Diaye, responsable d'une aire marine protégée, sont chargés de protéger l'écosystème unique du Sin Saloum.
Ici, on tombe sur quelqu'un qui utilise des types d'engins interdits dans l'aire marine protégée, donc on le sensibilise.
Mais lors d'une sortie en mer, pendant le tournage de ce reportage, lui et un autre officier n'ont pas verbalisé plusieurs bateaux qui transportaient ces filets illégaux. Le directeur des pêches maritimes du Sénégal, Diène Faye, insiste sur le fait que l'interdiction est appliquée. Mais il reconnaît que les filets sont toujours utilisés.
Voilà, même s'il y a un impact sur la ressource, je ne peux pas dire que c'est un impact qui est considérable parce qu'on continue à avoir des poissons.
Mais les pêcheurs, les défenseurs de l'environnement et les Nations Unies ont averti que les stocks de poissons de la région s'épuisent rapidement. Certaines personnes décident de retirer eux-mêmes les filets de pêche. Radouane El Ali mène une initiative de retrait de filets sous-marins pour le groupe à but non lucratif Océanium, basé à Dakar.
De toute façon, les pêcheurs les utilisent, personne ne se cache. Hein. On ne se cache pas parce qu'au final, on ne leur dit rien. Hein. Chacun peut pêcher ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut.
Tant que les autorités n'appliqueront pas une interdiction stricte de ces filets, les défenseurs de l'environnement affirment que les dauphins et autres espèces marines du Sénégal continueront d'en payer le prix. FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, déclare que malgré la divulgation de documents présumés classifiés des services de renseignement américains sur la guerre en Ukraine, Washington maintient sa confiance en son projet de contre-attaque contre les forces russes. Ce reportage de notre correspondante diplomatique Cindy Sain est relaté par Yacouba Ouedraogo.
Pendant que la guerre fait rage en Ukraine, les hauts responsables américains tentent de limiter les dégâts causés par la divulgation de documents militaires hautement confidentiels sur la guerre. Ces documents comprennent des diapositives décrivant les positions militaires ukrainiennes et des évaluations américaines du soutien de leurs alliés à Kiev. Mardi, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que personne ne sait avec certitude d'où proviennent ces documents.
Nous prenons cette affaire très au sérieux et nous continuerons à enquêter et à retourner chaque pierre jusqu'à ce que nous trouvions la source et l'étendue du problème.
À la question de savoir si le président ukrainien Volodymyr Zelensky devait modifier ses plans en vue d'une contre-offensive contre la Russie prévue au printemps, Lloyd Austin a répondu par l'affirmative.
Ils combattront l'ennemi. Elles ne seront pas guidées par un plan spécifique. Ils ont un excellent plan de départ, mais seul le président Zelensky et ses dirigeants en connaissent tous les détails.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a été interrogé sur les dommages que les fuites pourraient causer à la confiance des alliés des États-Unis dans le partage des renseignements à l'avenir.
En ce qui concerne les alliés et les partenaires en général et ces documents, permettez-moi de dire que nous nous sommes engagés avec nos alliés et nos partenaires à des niveaux élevés au cours des derniers jours, notamment pour les rassurer sur notre engagement à protéger les renseignements et, bien sûr, sur notre engagement à l'égard de nos partenaires en matière de sécurité.
L'une des fuites les plus préjudiciables concerne les États-Unis et leurs alliés, la Corée du Sud. Ben Hodge, ancien commandant de l'armée américaine en Europe, a expliqué le document à la VOA via Skype.
L'une des fuites indiquait que les États-Unis écoutaient apparemment des conversations au sein du gouvernement sud-coréen. Ils essayaient de comprendre si la Corée du Sud allait finalement accepter de nous vendre des munitions que nous pourrions soit donner directement à l'Ukraine, soit utiliser pour remplacer ce que nous avons donné à l'Ukraine. Dans ce cas précis, je pense que nous écoutions le gouvernement sud-coréen pour essayer de comprendre ce qu'il pensait.
Le ministère ukrainien de la Défense accuse la Russie d'être à l'origine de ces fuites. Les experts du renseignement affirment que le document contenant le nombre de victimes a été modifié pour réduire de plus de moitié le nombre de soldats russes tués avant d'être diffusé sur des chaînes Telegram pro-russes. Un porte-parole du Kremlin a déclaré que Moscou sait pertinemment que les États-Unis et l'OTAN sont impliqués dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine avant que les fuites ne fassent surface.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale de Du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Eric Manelakiza, à la mise en onde de Fatouma Kalala Alimassi. Rendez-vous sur...